Mesdames, Messieurs, c'est toujours agréable de venir en Suisse, où il fait bon vivre. Oui, oui, je le dis parce que j'y viens souvent et chaque fois c'est avec plaisir. Et c'est toujours intéressant de comparer la vie en Suisse et la vie en France. Il y a beaucoup de choses intéressantes à découvrir. Je suis heureux aussi de parler devant vous d'un sujet de grande actualité. L'islam, en effet, fait beaucoup parler de lui, comme vous le savez, depuis un certain nombre d'années, disons depuis une vingtaine d'années au moins. Il est au devant de l'actualité politique, internationale. Il est aussi au devant de l'actualité dans les pays européens, depuis qu'il y a des minorités musulmanes, parfois importantes en nombre, comme en France, où il y a 3 millions de musulmans, ce qui est beaucoup, et qui pose un certain nombre de problèmes d'intégration ou d'insertion, comme on dit, dans des sociétés qui, jusqu'à présent, ont été essentiellement des sociétés chrétiennes, et aussi des sociétés, depuis au moins 2 siècles, laïques, fortement laïcisées. Et justement, toutes ces situations, à la fois internationales et nationales en Europe, font que de plus en plus on s'interroge sur cette religion, sur son histoire, sur ce qu'elle représente, et on découvre que on ne connaît pas grand-chose à son sujet, bien que l'islam en tant que religion, nous allons le voir, et aussi en tant qu'histoire, est très intimement lié au christianisme et au judaïsme en tant que religion, mais aussi en tant que histoire et culture. L'islam n'est pas aussi éloigné qu'on le pense et qu'on le présente de la culture européenne. Et c'est à ces points justement que nous allons essayer de nous attacher pour nous permettre de mieux lire l'histoire du monde méditerranéen. Parce qu'il faut penser au monde méditerranéen pour mieux parler de façon objective et de façon conséquente, scientifique, de l'histoire des 3 monothéismes, juifs, chrétiens et musulmans, et à travers l'histoire de ces monothéismes pour parler correctement aujourd'hui de l'histoire des cultures qui ont façonné toutes les sociétés du monde méditerranéen. C'est pour cela que j'ai choisi pour titre, pour cette causerie, « Penser l'islam aujourd'hui ». Alors j'attire d'abord votre attention sur le verbe à l'infinitif. Penser. En français, penser à l'infinitif a un sens très fort pour désigner une activité intellectuelle critique. Critique au sens scientifique, pas au sens du dénigrement, bien sûr. Critique au sens où, lorsque un sujet est trop compliqué, est devenu trop compliqué, il devient nécessaire d'observer un arrêt pour essayer de se délivrer de toutes les passions, de tous les préjugés qui s'accumulent autour de ce sujet lorsque l'actualité est brûlante, et d'observer ce que l'on appelle une distance critique, mettre à distance l'objet d'étude. Ce sont ces opérations de méthode, de réflexion, d'analyse que signifie le verbe français « penser ». Et d'ailleurs, il y a des ouvrages que l'on a écrits avec cet infinitif qui correspond à une tradition culturelle et intellectuelle très française. Par exemple, mon collègue François Furé a écrit un ouvrage que vous connaissez peut-être qui s'appelle « Penser la Révolution française ». Parce que la Révolution française, comme vous le savez, est un sujet qui suscite, depuis qu'elle a eu lieu, des interprétations toujours recommencées, des interprétations sur lesquelles les historiens ne cessent de s'opposer, parce que l'événement est trop riche. L'événement ne peut pas se réduire à une seule interprétation. Bien, de la même façon, en ce qui concerne l'islam, nous avons besoin aujourd'hui, à la fois du point de vue des musulmans eux-mêmes, mais aussi du point de vue des Européens, nous avons besoin d'observer cet arrêt critique pour clarifier les questions. Voilà donc pour le verbe « penser ». Penser l'islam aujourd'hui. Le deuxième terme de mon titre, c'est « aujourd'hui ». Pourquoi « aujourd'hui » ? Eh bien, d'abord pour les raisons politiques internationales que j'ai indiquées, parce que les relations entre les pays européens et les pays musulmans deviennent de plus en plus problématiques à cause des attitudes, en particulier en Proche-Orient, vis-à-vis de problèmes économiques, de problèmes monétaires, qui font qu'il y a une compétition entre les grandes puissances pour avoir le contrôle, en particulier de la région du Golfe, comme vous le savez, et vous n'avez pas oublié sûrement l'événement qui a ébranlé le monde de la guerre du Golfe, qui a des implications très très nombreuses et qui mérite justement que l'on y réfléchisse pour que de tels événements ne se répètent plus. Mais le mot « aujourd'hui » réfère aussi à l'actualité scientifique. En effet, depuis les années 1950-1960, il y a eu de nombreux changements dans ce que l'on appelle les sciences sociales, ou bien les sciences de l'homme et de la société. Il faut prendre la mesure des changements qui sont intervenus au niveau de la recherche scientifique avec des sciences comme l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, l'histoire, bien sûr, qui est devenue une discipline pluridisciplinaire, c'est-à-dire qui utilise plusieurs sciences à la fois. Il y a aussi la linguistique, qui a apporté des outils nouveaux pour l'analyse des documents qui nous renseignent sur les sociétés, sur leur histoire. Et en ce qui concerne l'étude des religions, pas seulement de l'islam, la linguistique est une discipline première, parce que le judaïsme, le christianisme, l'islam sont ce qu'on appelle des religions du livre. Elles ont un livre. Et elles n'ont pas cessé de lire ce livre. Soit la Bible, soit les évangiles, soit le Coran. Les fidèles de ces trois religions retournent constamment au livre. Or, le livre est un texte, ou un ensemble de textes. Et l'interprétation du livre est conditionnée par la connaissance des outils linguistiques d'analyse des textes. Ça, c'est extrêmement important. Parce que ce qu'on appelle l'exégèse des textes sacrés a beaucoup changé depuis les années 50-60, à cause précisément des évolutions de la science linguistique. Il faut donc intégrer dans notre réflexion à propos de l'islam et des autres religions les méthodes nouvelles, les outils nouveaux qu'ont apporté ces diverses sciences, outils qui étaient différents avant les années 1950 et qui n'étaient pas utilisés comme nous pouvons les utiliser aujourd'hui. Par exemple, j'attire votre attention, pour fixer les idées, sur le regard que portaient les savants au XIXe siècle et jusqu'aux années 1950 sur les sociétés colonisées. Comment les Européens, Français, Anglais, Hollandais, Belges, qui colonisaient des sociétés musulmanes, l'Afrique du Nord par exemple, qui est proche de nous, comment regardaient-ils ces sociétés-là? Ils les regardaient comme des sociétés attardées, primitives, comme on dit. Des sociétés livrées à la magie, aux superstitions. Et nous avons toute une littérature qui décrit les croyances superstitieuses de ces populations. Parce que les savants du XIXe siècle opposaient les progrès accomplis en Europe par les sociétés européennes, délivrées justement de leurs superstitions médiévales, et ils opposaient ceci aux sociétés musulmanes ou aux sociétés africaines qui, elles, croyaient encore à toutes sortes d'idées qui avaient fait l'objet d'une critique ici dans les sociétés européennes. Et d'ailleurs, le christianisme lui-même, au XIXe siècle, a souffert de ce regard porté sur les religions par des sciences qui étaient, encore une fois, positivistes et qui faisaient des jugements de valeur sur les cultures, jugements qui, aujourd'hui, ne sont plus faits de la même façon. Voilà donc l'explication de ces deux termes importants qui doivent nous permettre maintenant d'entrer davantage dans notre sujet, l'islam. Alors, bien sûr, je suppose que vous n'avez pas une information déjà acquise au sujet du développement historique de ce que l'on appelle l'islam. Alors, je vais essayer très rapidement de vous donner un cadre chronologique pour vous permettre de situer les problèmes que nous examinerons ensuite dans une deuxième partie. Le cadre chronologique du développement de l'islam en tant que religion. Alors, je vous rappelle très brièvement que c'est en Arabie, entre 610 et 632 exactement, que cette religion a émergé pour la première fois. On a parlé pour la première fois du Coran, de l'islam, ou plutôt de ce qui va devenir ensuite l'islam, dans cette période, dans deux villes importantes, la Mecque et Médine. Il faudrait lire des ouvrages sur la vie de Mohammed, du prophète, qui raconte ce moment extrêmement important de la naissance d'une religion. Et si vous êtes curieux de l'histoire des religions, vous pouvez comparer les nombreuses vies de Jésus qui ont été écrites à la vie de Mohammed. Vous allez voir qu'il y a des ressemblances nombreuses dans la façon dont un prophète initie pour la première fois des disciples et des groupes très réduits au début, les initie à une conception nouvelle de l'expérience du divin. Ce sont des moments historiques et des expériences qui nous intéressent encore aujourd'hui pour comprendre comment dans une société, dans un groupe social, émerge une voix humaine qui est différente des autres, qui parle différemment, qui tient un langage qui contraint les consciences, qui contraint de l'intérieur, pas de l'extérieur. Voyez, le langage prophétique se distingue des autres langages justement par cette caractéristique qu'il énonce des propositions qui intéressent les auditeurs et qui captent l'attention des auditeurs, le cœur des auditeurs, comme on le dit justement aussi bien dans des écrits chrétiens que des écrits musulmans, ils insistent beaucoup sur le cœur. Le cœur est le centre psychologique de la compréhension, de la réception du sens, et d'un sens qui s'applique à des situations qui intéressent chaque personne, chaque individu, puisque le prophète parle toujours de la vie, de la mort, de l'amour, de la justice, de la fraternité, de ces situations qui alimentent toujours les désirs et les aspirations des hommes, encore aujourd'hui, qui demeurent toujours un idéal, mais sur lesquels le discours prophétique parle justement d'une façon concrète. Parce que le prophète ne se contente pas de parler, il communique le sens aussi par sa vie exemplaire, au milieu des siens. Voilà une expérience extrêmement importante sur laquelle, aujourd'hui encore, nous pouvons réfléchir. Alors, je poursuis mon exposé sur le cadre chronologique, en allant vite cette fois. Le prophète est mort en 632, et entre 632 et 661, nous avons un premier centre politique qui s'installe à Médine. Vous voyez, un premier centre politique. Ce qui veut dire que dans la société arabe, jusque-là, il n'y avait pas de centre politique à vocation universelle, à vocation transtribale, c'est-à-dire qui dépasse les unités tribales qui jusque-là constituaient l'organisation sociale et politique de l'Arabie. C'est donc un événement également du point de vue politique. Ce n'est pas un événement seulement du point de vue religieux, c'est un événement aussi du point de vue politique, puisque nous avons une vision de la cité des hommes qui dépasse les particularismes locaux. De même que la vision de la nation, qui est une vision tardive, même chez les Européens, de la nation unifiant, une société qui comprend des groupes culturels, linguistiques très divers, cette idée aussi a demandé beaucoup de temps pour s'établir dans les sociétés. Et bien là, nous avons une idée semblable qui est née à Médine et qui a pris racine très vite, assez vite pour que, entre 632 et 732, voyez, exactement un siècle, il y a une diffusion particulièrement rapide de ce nouveau modèle à la fois religieux pour l'émancipation de la personne et politique pour la construction d'une nouvelle conception de l'État et du centre politique. 732, je vous rappelle, c'est la fameuse bataille de Poitiers. Cela veut dire que les musulmans sont arrivés en un siècle de leur Arabie lointaine. Nous sommes au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, ça se faisait à pied et au pas du chameau. Ça ne se faisait pas avec des blindés. C'est pourquoi la performance historique mérite d'être souligné. Et aussi la performance des idées mérite d'être soulignée. Car lorsque cet islam nouveau, nouvellement apparu, et ce nouveau modèle politique va se transporter en Syrie, à Damas, en 661, il va rencontrer à Damas un modèle concurrent qui existait déjà. C'est le modèle byzantin. L'empire chrétien byzantin exerçait son pouvoir dans toute la région du Proche-Orient. Donc il rencontre quand même une résistance, un modèle valable. Eh bien, malgré ce modèle valable, le nouveau modèle parvient à se diffuser, à s'implanter et à aller encore plus loin, puisque il va dépasser les frontières de l'Iran vers l'Inde et plus tard il atteindra l'Indonésie. L'Indonésie aujourd'hui est un pays musulman qui a près de 180 millions d'habitants. Il y a autant de musulmans dans la seule Indonésie qu'il y a d'arabes dans tous les pays arabes réunis. Je vous signale cela pour essayer d'éliminer de votre tête cette idée qui identifie toujours l'islam aux arabes. C'est une identification qui est juste au début de l'histoire, mais qui devient très très vite fausse, puisque pour aller jusqu'en Espagne, les arabo-musulmans sont passés par l'Afrique du Nord, et l'Afrique du Nord n'est pas arabe. Elle est berbère. C'est une population entièrement différente, mais qui va se convertir à l'islam. Exactement comme cela d'ailleurs est arrivé pour le christianisme. Bien, ce qu'on appelle le califat de Damas dure de 661 à 750, un siècle à peu près. Et ensuite vient une nouvelle dynastie, très célèbre, qui correspond à la période la plus brillante de l'histoire de l'islam, de la culture islamique et de ce qu'on appelle la civilisation islamique, et qui a lieu à Bagdad, la capitale de la nouvelle dynastie, la dynastie des Abbasides à Bagdad. Et à partir de Bagdad, c'est tout un empire, que l'on appelle l'empire musulman, qui est constitué et qui entretient des relations à la fois économiques, culturelles et politiques avec ce grand centre politique, cette grande ville cosmopolite où se rencontraient des populations d'origine ethnique, d'origine culturelle et de confession religieuse extrêmement variées. Et là aussi, il faut souligner la performance historique. Nous sommes toujours dans le haut Moyen-Âge. 750, Charlemagne n'est pas encore là. Vous voyez, et cette dynastie va régner de 750 exactement à 1258. Retenez bien cette date, parce que c'est une référence importante pour penser ce qui va arriver à l'islam justement après cette date de 1258. 1258, c'est la date de l'élimination de l'État califal, de l'institution du calife, qui est l'institution politique d'inspiration musulmane. Élimination par une population venue de Chine, les Mongols, qui prennent possession des grandes villes d'Irak, et en particulier de Bagdad, et à partir de ce moment-là, il y a un destin historique nouveau de l'islam et de la pensée islamique, et aussi des sociétés musulmanes. Ensuite, une autre grande date qu'il faut retenir, 1453, c'est la conquête de Constantinople par les Turcs ottomans cette fois-ci. Vous voyez, il y a des populations diverses qui prennent en charge tour à tour cet islam, cette religion. Ce ne sont pas seulement les Arabes qui ont pris en charge cette religion. C'est une religion qui s'est adressée à plusieurs peuples, qui a mobilisé plusieurs cultures et qui est liée historiquement à plusieurs cultures. Donc il faut retenir l'idée de cette richesse, historique, de cette richesse culturelle et de la richesse de l'expérience vécue par tant de peuples qui existent encore et qui essayent de revenir, si je puis dire, à la surface de l'histoire, parce que, et maintenant on va commencer à réfléchir davantage, on ne va pas se contenter de mentionner des faits et des dates, parce que à partir du XIIIe siècle, donc 1258, c'est déjà le XIIIe siècle, la moitié du XIIIe siècle, il y a un phénomène historique de très grande envergure qui va aussi intervenir très fortement pour peser sur le destin de l'islam. En tant que religion, en tant que pensée, que tradition de pensée, en tant que culture, en tant que civilisation. Ce phénomène nouveau dans l'histoire du monde, c'est l'ascension de l'Europe et l'hégémonie que l'Europe progressivement va conquérir et exercer, d'abord dans le monde méditerranéen et ensuite, à partir du XIXe siècle, dans le monde entier. Il faut prendre la mesure de cette histoire où nous avons des forces qui s'affrontent dans cette terre de civilisation qu'est la Méditerranée. J'ai dit que les Turcs ottomans ont pris Constantinople en 1453. Cela montre que l'islam conserve encore une puissance hégémonique. Et les Turcs, effectivement, vont continuer à résister, à concurrencer les capitales européennes, en particulier Venise et Gênes en Italie, mais aussi Bruges en Belgique, qui sont des centres économiques importants, mais aussi l'Espagne et le Portugal, qui ont développé des appétits de domination, surtout après cette date importante dont nous célébrons cette année le 5e centenaire, 1492. 1492 est une date historique extrêmement importante pour l'histoire de l'Europe et pour l'histoire de la montée de l'hégémonie européenne. Puisque la découverte de l'Amérique va entraîner l'ouverture d'un nouvel espace d'expansion politique et économique de l'Europe, et qui est l'espace atlantique. Et l'Europe ne va pas seulement se développer dans la Méditerranée, elle va se développer aussi par-delà l'Atlantique. Et c'est là que se consomme de façon définitive jusqu'à nos jours, la supériorité de l'Europe, non seulement sur le monde musulman qui jusque-là avait réussi à maintenir une hégémonie dans le monde méditerranéen, en contrôlant les routes du commerce en particulier, ce qui a été une source de richesse économique pour le monde musulman, mais au-delà de la perte d'hégémonie par les Turcs, dès 1571, vous voyez, c'est la fameuse bataille de Lépante qui a été remportée par les forces chrétiennes en Méditerranée et qui va consacrer le renversement du rapport des forces. Désormais, l'Empire ottoman va devenir, dans les manuels d'histoire, je ne sais pas si vous utilisez la même expression en Suisse, mais en France, nous avons longtemps utilisé l'expression « l'homme malade ». L'homme malade. L'homme malade, c'est une métaphore pour désigner l'État ottoman. L'État ottoman devient malade et les puissances européennes viennent veiller à son chevet. Alors on continue la métaphore. Moi j'ai appris ça quand j'étais à l'école, c'est écrit dans les manuels d'histoire. C'est pas moi qui invente la métaphore, ce sont les historiens qui l'ont longtemps employé. Et ils l'ont employé effectivement jusqu'à la mort définitive de l'homme malade qui a été achevé grâce d'ailleurs à un Turc, Atatürk. Atatürk, le chef et le fondateur de la Turquie contemporaine, a aboli le régime du sultanat ottoman en 1924. Mais cet acte de Atatürk n'a fait que consacrer officiellement une évolution qui, comme vous le voyez, a commencé depuis beaucoup plus loin. Ceci vous explique la marche progressive de l'Europe qui a pris progressivement possession des pays musulmans. Je vous ai dit que l'Espagne, par exemple, a commencé, d'abord elle a chassé les juifs et les musulmans qui étaient chez elle en 1492, après cet événement de l'Amérique, mais aussi un événement qui s'est produit en Espagne même, et on est en train de faire beaucoup de célébrations justement cette année qui j'espère va justement ouvrir les possibilités d'une réflexion en Europe pour relire cette histoire en essayant de montrer qu'il y a eu des luttes de puissance, des luttes d'hégémonie des deux côtés. Il ne s'agit pas de présenter les choses en faveur de l'un plutôt que l'autre. Or, c'est malheureusement ce que l'histoire continue de faire de part et d'autre. L'histoire n'est pas encore enseignée avec ce souci d'objectivité qui essaye de montrer ce qui se passe des deux côtés. La preuve de ce que je dis, c'est que dans les départements d'histoire, même à Lausanne, je l'ai vérifié, à Genève ou d'autres universités suisses et bien entendu en Europe, l'histoire de la Méditerranée n'est jamais enseignée dans toutes ses parties. Car l'histoire de la Méditerranée du Sud et de l'Est relève d'une spécialité qui est l'orientalisme. Parce que pour faire cette histoire, il faut connaître le turc, il faut connaître l'arabe, et même l'iranien, pour lire les sources historiques. Et comme les Européens continuent d'étudier uniquement l'histoire du côté de l'Europe, ils ne vont pas s'aventurer dans ces archives. Alors ils les laissent aux gens qui ont étudié le turc et l'arabe, pour pouvoir exploiter ces sources. Alors il y a là une situation qui est tout à fait inacceptable du point de vue de l'histoire objective. Car l'historien, je dis toujours, c'est un juge d'instruction. Imaginez un juge d'instruction qui instruit une affaire grave et un contentieux qui s'est développé sur plusieurs années et qui, parce qu'il ne connaît pas certaines langues, refuse de regarder les documents concernant l'affaire. Mais parce qu'il ne connaît pas la langue, il dit « moi, je ne vais pas regarder ces documents ». Ce n'est pas possible, parce qu'il n'y aura pas de jugement si c'est ainsi. Et oui, je vous signale cela, ça fait partie justement de ce projet que j'essaye d'esquisser devant vous. Comment penser l'islam aujourd'hui? C'est-à-dire restituer tous les moments historiques qui, depuis le XIIIe siècle, ont progressivement affaibli les sociétés musulmanes pour faire que l'Europe, au XIXe siècle, prend possession carrément de ces sociétés. Elles deviennent sa propriété. Bonaparte débarque en Égypte en 1799. Et les Français débarquent en Algérie en 1830, en Tunisie en 1880, etc. L'Angleterre s'empare de l'Inde, le continent indien, en 1768 déjà. Alors, voilà des mesures qu'il faut réintroduire pour comprendre ces mouvements auxquels nous assistons dans les sociétés musulmanes depuis justement les années 1950. Ce sont des mouvements de libération politique qui ont eu lieu pendant les années 50, comme vous le voyez, comme vous le savez, il y a eu des guerres de libération parce qu'il y a eu justement cette extension de l'hégémonie européenne pendant la période coloniale qui a duré longtemps, plus d'un siècle et parfois deux siècles. Vous voyez ? Et aujourd'hui, lorsqu'on parle des mouvements fondamentalistes musulmans ou des mouvements intégristes musulmans, c'est le vocabulaire qu'on emploie maintenant pour parler de l'islam, nous ne voyons dans ces mouvements-là que la véhémence, le terrorisme, le fanatisme, le refus de l'Occident, le refus de la civilisation, le retour en arrière au Moyen-Âge, l'abaissement de la condition féminine par la restauration de la loi religieuse musulmane, etc., etc. Voilà les images qui s'implantent au jour le jour dans l'imaginaire des populations européennes à propos de cet islam dont je vous ai présenté quelques images historiques. Alors vous voyez la rupture qui se produit non seulement à l'intérieur de l'histoire de l'islam, mais aussi la rupture qui se produit dans la représentation que les Européens fabriquent de l'islam en s'en tenant aux événements qui interviennent dans ces sociétés musulmanes depuis les 30 dernières années ou les 40 dernières années. On ne remonte pas plus avant, plutôt plus haut dans l'histoire, pour rétablir toutes les perspectives historiques et pour expliquer les raisons historiques lointaines et toujours actuelles des protestations qui s'élèvent dans ces sociétés depuis les années 1950, encore une fois, car c'est après la Deuxième Guerre mondiale que les mouvements de libération commencent à se manifester dans les sociétés musulmanes. Alors évidemment, la question est compliquée. Ce que je viens de dire au sujet de la vision essentiellement politique et idéologique que toute une littérature en Occident fabrique au sujet de l'islam et des musulmans depuis une trentaine d'années n'est pas entièrement fausse, puisque nous constatons effectivement qu'il y a de la violence dans les sociétés musulmanes. Nous constatons effectivement qu'il y a une attitude fondamentaliste, intégriste, vis-à-vis de la religion et de l'utilisation de la religion. Cela est vrai. Mais comment rendre compte de cette situation et comment l'expliquer? Comment se fait-il qu'il y a actuellement ces revendications véhémentes qui se multiplient dans les sociétés musulmanes? Eh bien, il faut revenir à ce développement historique depuis le XIIIe siècle et expliquer comment les musulmans n'ont plus développé une connaissance culturelle et intellectuelle de leur religion à partir du moment où les empires, ou plutôt l'empire musulman, a perdu le contrôle de sa cité, a perdu le contrôle de son organisation politique et de son organisation culturelle. En effet, l'étude de l'islam dans les écoles musulmanes à partir du XIIIe siècle a diminué progressivement et s'est éloigné de ce qu'il avait été dans les siècles du VIIe siècle jusqu'au XIIIe siècle. À Bagdad, comme je vous l'ai dit, il y a eu une efflorescence d'études et de cultures, puisque la pensée islamique s'est ouverte, en particulier, à l'étude de la pensée grecque, à l'étude de la philosophie grecque. Et elle a utilisé la philosophie grecque pour développer une théologie qui ressemble beaucoup à la théologie développée par les chrétiens à partir du XIIIe siècle, sous l'influence d'ailleurs des courants philosophiques et des courants théologiques qui ont été développés en islam, à Cordoue, en particulier en Espagne musulmane, mais aussi en Irak, au Caire, à Kairouan, en Tunisie, bref, dans les grands centres d'études et de recherche musulmans pendant les siècles classiques, qu'on appelle les siècles classiques, du 7e au 13e siècle. Voilà une page d'histoire qui est ignorée à la fois par les musulmans eux-mêmes, parce qu'ils l'ont oublié à partir du XIIIe siècle, parce qu'ils ont cessé de l'enseigner à partir du XVIe siècle à cause des changements politiques dont je vous ai parlé, mais aussi qui est ignorée en Occident, bien que il y a là aussi des relations historiques très étroites entre la pensée islamique qui s'est développée au Moyen-Âge et la pensée chrétienne qui s'est développée dans les grandes universités européennes, par exemple à la Sorbonne, à Oxford en Angleterre, à Bologne en Italie. Nous avons là des centres universitaires, des centres d'études et de culture qui ont traduit en langue latine des ouvrages qui avaient été élaborés en langue arabe précédemment dans ces grands centres de culture islamique que j'ai mentionnés. Toute cette culture et toute cette ouverture et aussi ce pluralisme qui caractérise la pensée islamique dans le haut Moyen-Âge va disparaître. Il disparaît pour les musulmans eux-mêmes. C'est cela le phénomène historique important qui peut nous permettre aujourd'hui de comprendre pourquoi, lorsque les musulmans parlent de leur religion, ils en parlent d'une manière intellectuellement étroite. Parce qu'ils ne peuvent plus se référer même à ces textes anciens qui sont encore aujourd'hui soit à l'état de manuscrit, donc ils ne circulent pas, ils ne sont pas à la disposition de tous les lecteurs, et même lorsqu'ils sont édités et qu'ils circulent, eh bien, ils n'ont pas fait l'objet d'études scientifiques modernes pour être exploités par des historiens modernes qui les mettent à la disposition des lecteurs aujourd'hui. Un exemple. Si on mettait entre vos mains la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, et on vous dit, voilà, vous allez lire ça et vous allez comprendre toute la théologie chrétienne, ben, ça n'est pas possible. Personne aujourd'hui ne peut se plonger dans cette grosse somme, ce gros ouvrage écrit par saint Thomas d'Aquin au XIIIe siècle sur la théologie chrétienne. Et vous savez que saint Thomas d'Aquin est devenu l'autorité reconnue par l'Église depuis le XIIIe siècle pour la théologie. Eh bien, Il a fallu écrire de très très nombreux ouvrages sur cette somme théologique pour la présenter à un public chrétien plus large, pour qu'il puisse entrer dans cet univers de réflexion et cet univers de connaissance. Eh bien, la même chose se passe pour les grandes œuvres écrites à la même époque ou avant pour l'islam et la pensée islamique. Par exemple, les œuvres d'un grand philosophe théologien musulman qui a vécu à Cordoue et qui s'appelle Averroès. C'est un nom normalement que tous les Européens devraient connaître. Averroès. Vous me direz tout à l'heure si vous avez entendu ce nom-là ou pas. Si vous n'avez pas entendu ce nom-là, eh bien, ça confirmerait ce que je vous ai dit au sujet de la coupure intervenue dans l'histoire de la pensée en Occident, qui écarte encore une fois tout ce qui appartient au côté arabe et musulman et qui ne garde que ce qui appartient au côté européen. Pourquoi est-ce que cela est intolérable dans le cas, par exemple, de ce philosophe, Averroès? Eh bien, parce que l'œuvre d'Averroès a été traduite en latin au XIIIe siècle. Et elle a été utilisée, justement, par les penseurs chrétiens, en particulier saint Thomas d'Aquin, dont je parle. Donc, au XIIIe siècle, on s'intéressait à ces auteurs qui ont fait partie du mouvement d'évolution intellectuelle et culturelle en Europe. Normalement, il faudrait connaître cette continuité aujourd'hui. Ben, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas ni chez les Européens, ni, plus gravement bien sûr, chez les musulmans. C'est cela qui est extrêmement important à souligner pour expliquer, encore une fois, ce rétrécissement du champ intellectuel qui est intervenu dans le monde musulman depuis déjà fort longtemps, c'est-à-dire pratiquement depuis 6 siècles. Bien entendu, la période coloniale du 19e siècle a aggravé cette situation en introduisant les langues européennes et en introduisant de manière brutale ce que nous appelons la modernité dans ces sociétés qui n'étaient pas préparées à recevoir cette modernité. Et il y a un autre facteur qui aggrave les ruptures historiques dont j'essaye de vous présenter une image rapide. Depuis les années 1960, nous avons deux phénomènes qui aggravent cette situation.
L'État, nation, parti, avec des traits d'union. État, nation avec un N majuscule, trait d'union, parti avec un P majuscule. Je ne sais pas si déjà, par cette présentation typographique que vous pouvez visualiser, vous réalisez l'importance de cette expression. C'est-à-dire que nous avons affaire à des États politiquement volontaristes qui imposent leur volonté à l'ensemble de la société sans la consulter, puisqu'il n'y a aucun processus démocratique dans ces sociétés-là. Et s'il y a un processus démocratique, il est purement formel pour couvrir justement ce volontarisme de l'État. Et cet État tire sa légitimité de la promesse de construire une nation, de construire l'unité nationale, sur le modèle de l'unité nationale des pays européens. C'est pour cela qu'on l'appelle l'État-nation. Et en plus, cet État confie à un seul parti, puisqu'il interdit l'existence d'autres partis. Il confie à un seul parti la tâche de gouverner la société et de construire cette nation promise. Alors vous voyez toutes les conséquences que cela va entraîner, politiques, culturelles, sociales, dans les différents pays où ce grand phénomène contemporain a émergé
après les indépendances, après les luttes d'indépendance. Nous voyons aujourd'hui des phénomènes comme celui de l'Irak, celui de la Syrie, celui du Pakistan, celui de l'Algérie, bien sûr, qui est très proche de nous, on en parle beaucoup, etc. On peut, de l'Iran, le cas de l'Iran, depuis Khomeini, vous avez de très nombreux exemples qui illustrent les effets sur la société civile de ce phénomène qui est apparu, encore une fois, depuis une trentaine d'années, phénomène de l'État-nation-parti. Et on n'est pas encore sorti de ce phénomène. Ça va demander malheureusement du temps. Le deuxième facteur qui explique les ruptures culturelles et intellectuelles et qui rend difficile aujourd'hui la compréhension de ce qui se passe au sujet de l'islam, c'est le phénomène démographique. La démographie, dans toutes les sociétés musulmanes, sans exception, mais aussi on peut généraliser dans les sociétés du tiers-monde, c'est un phénomène général, a connu dans les 30 dernières années un développement tout à fait inédit, inconnu dans l'histoire des sociétés. Jamais dans l'histoire des sociétés on a connu une croissance démographique aussi rapide que celle qu'on a connue durant les 30 dernières années. Bien sûr, les sociétés européennes sont en dehors de ce mouvement. Il s'agit des sociétés du tiers-monde, parmi lesquelles, bien sûr, comptent les sociétés musulmanes. Alors, vous avez des phénomènes tout à fait spectaculaires qui sont liés à ce mouvement démographique. Si vous considérez, par exemple, la population du Maroc et de la Tunisie d'aujourd'hui, eh bien, de 1960... à 1992, aujourd'hui, la population de ces pays a triplé, multiplié par 3. Ce qui veut dire que 70% de la population de ces pays, aujourd'hui, a moins de 30 ans. 60, 92, ça fait 32 ans. 30 ans. Ce qui veut dire que nous avons affaire à une population massive qui est très jeune. Alors, une population jeune, ça change complètement l'échelle de tous les problèmes. Problèmes économiques, problèmes d'éducation, problèmes de travail, donner du travail, problèmes des ressources, etc., de l'exploitation des ressources. Alors, vous voyez, si vous conjuguez les conditions imposé à la société par l'État-nation-parti, d'un côté, qui est, comme je vous l'ai dit, très volontariste, en ce sens qu'il ne consulte pas tellement la société. Et de l'autre côté, la croissance rapide de la demande sociale, économique, culturelle, qui émane de cette jeunesse, vous allez avoir une vision, je crois, correcte de l'ensemble des problèmes qui se posent à ces sociétés aujourd'hui. Et vous allez avoir à ce moment-là une vraie clé pour comprendre que il ne s'agit pas de l'islam dans les manifestations politiques auxquelles nous assistons. Elles ne proviennent pas du Coran, comme on se l'imagine. Elles ne proviennent pas de l'islam en tant que doctrine religieuse, comme on le dit à satiété. On vous montre l'islam avec un I majuscule et on vous dit l'islam dit que, l'islam veut que, l'islam enseigne que, et l'islam est devenu une sorte de démiurge qui crée tout et qui conditionne tout. Ça, c'est une fabrication. Une fabrication de l'imaginaire pour l'imaginaire. Ça n'est pas une compréhension de la réalité des problèmes. Car la réalité des problèmes, elle réside dans la complication des demandes, encore une fois, sociales, des demandes économiques, des demandes culturelles,
qui ne peuvent pas être satisfaites du fait d'une politique inadéquate et aussi d'un système politique totalement inadapté qui est imposé par l'État, nation, parti. Voilà donc un certain nombre de données, mais pour achever cette analyse, il faut encore ajouter une autre donnée. Ça n'est pas fini. Alors vous voyez, ça c'est la mise à distance. Vous voyez, je mets tout à distance. Et je ne porte pas de jugement de valeur sur tout ceci. Car il importe d'abord d'ouvrir les dossiers. Le juge d'instruction ne prononce pas le jugement. Il ne lui appartient pas de le prononcer. C'est le juge de paix qui va le prononcer. Sur la base d'un dossier bien instruit. Et vous voyez tout ce qu'il faut faire pour instruire le dossier. Nous allons terminer ce parcours par ce qu'on appelle la géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? Le président Mitterrand en France a une fois repris dans un de ses discours une définition célèbre de Napoléon. Alors un grand homme renvoie à un autre grand homme. Napoléon a dit que chaque pays fait la politique de sa géographie. C'est-à-dire que c'est la situation géographique d'un pays qui va commander le système d'alliance ou bien les stratégies d'intervention, de lutte d'hégémonie, de rivalité avec les voisins et même maintenant au-delà des mers, puisque la stratégie aujourd'hui englobe la totalité de la mer et non plus seulement les voisins. Pendant longtemps, par exemple, regardez l'histoire de France et l'histoire de l'Allemagne, l'histoire de France et l'histoire de l'Angleterre. Vous comprendrez ce qu'est la stratégie géopolitique des nations. Et on peut aussi observer les débats en cours dans les pays européens, l'Europe des 12, pour la ratification des accords de Maastricht. Et les débats en cours nous montrent très bien comment chaque nation continue de réfléchir, non pas dans la perspective justement de l'unification de l'espace européen, y compris une unification politique, mais chaque nation se demande « Que vais-je perdre ? Que va-t-il m'arriver en tant que nation une fois que j'aurai signé ce traité ?» Vous pouvez lire les discours et les écouter. C'est ça, la géopolitique. Alors la question de la géopolitique depuis la Deuxième Guerre mondiale s'est compliquée du rôle tout à fait majeur que joue l'Amérique, les États-Unis. Précisément dans les régions qui nous occupent, les régions qui concernent l'islam. Et parmi ces régions, le Proche-Orient occupe évidemment la première place. Et l'intervention de l'Amérique en Proche-Orient, et donc dans l'ensemble du bassin méditerranéen, a progressivement remplacé, pas encore tout à fait, mais presque, les interventions et les hégémonies, les contrôles, qui, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, étaient encore le privilège des grandes puissances coloniales comme l'Angleterre, la France en particulier, et d'autres pays indirectement comme l'Allemagne ou la Hollande. Et ce contrôle exercé pendant la période coloniale a continué de s'exercer après les libérations politiques dans la région par le biais du contrôle économique de la région et par le biais maintenant du contrôle monétaire de la région. La circulation de la monnaie, par exemple, ce qu'on appelle les pétrodollars, qui sont le produit de la vente du pétrole dans la région du Golfe. Comment ces pétrodollars vont dans les banques aux États-Unis ou en Angleterre
un peu en France, mais c'est surtout aux États-Unis justement, pour les investissements de ces pétrodollars, ce qui crée une situation économique extrêmement précaire dans les pays qui attendent le développement, comme l'Égypte par exemple, qui est accablée, c'est un des pays les plus accablés justement par les problèmes de la démographie et de l'absence de ressources pour gérer cette démographie. Et dans cette géopolitique, il faut évidemment au moins mentionner, et toujours pour ouvrir le dossier complètement, le grave problème ouvert, et vous voyez combien les années 50, vous allez voir combien les années 50 sont vraiment décisives, le problème d'Israël et de la Palestine a été ouvert en 48 avec la création de l'État d'Israël, avec toutes les conséquences politiques et géopolitiques dans la région et toutes les réponses politiques suscitées par cette création et les conséquences de cette création jusqu'à présent dans le Proche-Orient et par-delà le Proche-Orient, évidemment, dans le monde musulman qui manifeste une solidarité plus ou moins active avec ce qui se passe dans le Proche-Orient. Autrement dit, le poids économique, le poids politique, mais aussi le poids de l'hégémonie technologique de ce que nous appelons maintenant l'Occident, pas l'Europe. Ce poids-là continue de conditionner étroitement les évolutions qui interviennent dans les sociétés musulmanes en particulier, depuis l'Indonésie jusqu'au Maroc. Et il faut bien mesurer l'importance du poids de l'hégémonie technologique, parce que la technologie englobe à la fois tout ce qui se pratique dans la recherche scientifique, mais aussi ce qui se pratique dans la recherche scientifique dans le domaine des sciences sociales et des sciences de l'homme que j'ai mentionné au début. Autrement dit, l'hégémonie de l'Occident ne s'exerce pas ou plus uniquement sur le plan politique et économique. L'hégémonie de l'Occident s'exerce, et de façon indiscutable, sur le plan intellectuel, c'est-à-dire sur le plan de l'organisation du savoir, sur le plan de l'interprétation des forces qui décident de la destinée de chaque être humain. C'est-à-dire que le modèle de la connaissance, le modèle de la réflexion qui se développe en Occident, dans le cadre de l'expérience historique de l'Occident, se trouve généralisé à l'ensemble des autres cultures. C'est là le phénomène le plus important que nous sommes en train de vivre et sur lequel les Européens et les Occidentaux ne portent pas un regard suffisamment critique. Parce que les Européens, les Occidentaux, portés par l'euphorie de leur succès, portés par l'assurance qu'ils détiennent un modèle efficace, puisqu'il leur permet cette expansion et cette domination, eh bien, ne s'interrogent pas sur les conséquences pour les autres cultures de l'exercice de l'hégémonie, encore une fois, non pas seulement sur le plan économique, parce que ça, à la rigueur, ça pourrait passer, mais ce qui est beaucoup plus important, sur le plan de la production du sens pour l'homme. Où se produit le sens de nos activités? Où se produit le sens de ce que nous faisons? Un exemple, pour terminer. Le grand débat au sujet de la laïcité au sujet de la sécularisation. C'est un débat, vous le savez, qui renaît justement à cause de la présence des musulmans en Europe. Et l'on dit couramment que les musulmans sont totalement étrangers à la laïcité, et ça parce que c'est les pauvres, parce qu'ils sont demeurés. Demeurés dans les deux sens du mot, demeurés mentalement et demeurés aussi à des conceptions médiévales. Et donc il faudrait les initier à ce modèle moderne de l'organisation des sociétés et de la production du sens dans les sociétés. Mais historiquement, comment est-ce que la rupture entre le modèle laïque et le modèle religieux s'est effectuée en Europe? À la suite de quels événements la référence à la religion chrétienne comme source de légitimation du pouvoir politique, comme référence nécessaire à toute légitimation du sens, justement, de la vie de la personne humaine. Comment cette rupture s'est-elle effectuée? Elle s'est effectuée dans la violence et par la violence. On a exécuté Charles Ier en Angleterre en 1649 et on a exécuté Louis XVI sous la Révolution. Il ne s'agit pas seulement de ces rois, il s'agit de la symbolique religieuse liée au pouvoir politique tel qu'il était conçu et exercé dans les sociétés européennes jusqu'au XVIIe siècle et au XVIIIe siècle. Et l'on a substitué la symbolique laïque de légitimation à la symbolique religieuse de légitimation. Mais où sont donc les philosophes qui, aujourd'hui, peuvent nous renseigner de façon certaine sur le fonctionnement de la symbolique, soit religieuse, soit laïque, dans les sociétés, sur le rôle de ces symboliques dans la production du sens, encore une fois, tel qu'il circule dans les sociétés? Les philosophes continuent de discuter. Le problème est ouvert. Les anthropologues continuent de faire des recherches sur la signification du symbole dans la société. Comment nous utilisons les symboles dans la société? Et comment toute signification pour nous dans la société est ultimement liée à une symbolique que nous pouvons choisir soit du côté religieux, soit du côté laïque, soit en mélangeant les deux, sans nous en apercevoir. Voilà. Voilà un problème qui intéresse absolument toutes les sociétés et qui fait que nous devenons plus modestes lorsque nous confrontons des modèles attardés, comme l'islam, et des modèles avancés, comme hier le modèle soviétique, c'était aussi un modèle avancé. Rappelez-vous combien il était avancé dans toutes les têtes et dans tous les discours de ceux de moi qui y adhéraient. Et puis maintenant, le modèle qui semble vouloir se généraliser à toute notre humanité et qui est celui de l'économie de marché. L'économie de marché et le libéralisme. Voilà donc, comme vous le voyez, un faisceau de problèmes qui sont posés devant nous. Et devant ces problèmes posés devant nous, demandez-vous, demandons-nous, de quels outils disposons-nous? De quelles ressources culturelles disposons-nous, les uns et les autres, pour pouvoir avancer de manière communicative, je veux dire, dans la communication entre les cultures. Pour essayer de poser ces problèmes, non pas à partir d'une hégémonie s'exerçant sur des cultures satellisées, pour ne pas dire dominées, marginalisées, mais pour aborder ces problèmes de façon libre, égale, c'est-à-dire sur un plan d'égalité, où les différentes cultures pourraient parler pour elles-mêmes, à partir d'elles-mêmes, pour faire valoir, justement, des solutions qui pourraient enrichir, finalement, la culture occidentale elle-même et cette expérience historique de l'Occident qui, je crois, jusqu'à présent, continue de s'exercer beaucoup plus sur le mode de l'hégémonie que sur le mode moderne de la communication. Je terminerai par ce mot très beau, la communication. Je ne sais si j'ai réussi à établir une communication avec vous. En tout cas, j'ai fait mon possible pour cela. Merci. Alors voilà, la parole est à vous. Il paraît qu'il y a des conférenciers qui privent les auditeurs de questions et qui n'acceptent pas les questions. Moi, je ne conçois pas une conférence sans questions parce que, justement, j'accorde une importance primordiale, comme vous le voyez, à la communication. Alors, c'est pour cela que je mets cela en pratique. Je vous en prie. Oui.
Bien sûr, monsieur le professeur, lorsqu'on fait un survol tel que celui que vous avez choisi, il y a des options et des choix, et vous avez choisi ce qui vous a paru des fondamentales. J'aurais trois questions à vous poser. La première, vous avez terminé en parlant des différentes cultures. Est-ce que nous ne sommes pas aujourd'hui comme face à certains animaux en voie de disparition? Est-ce que nous ne sommes pas à voir des cultures disparaître parce que trop malmenées, trop, je dirais, arrosées par l'eau et par tous les médias dont nous disposons, par une certaine hégémonie, et qu'en fait, aujourd'hui, c'est peut-être, je dirais, presque de l'archéologie que d'aller à la recherche de cultures en voie de disparition rapide. Est-ce que ce n'est pas trop tard? Première question. Deuxième question, c'est sur ce que vous avez appelé le rétrécissement, qu'on peut appeler l'endormissement, peu importe. En fait, à quoi l'attribuez-vous? Je ne crois pas que lorsque Napoléon Bonaparte a débarqué à Alexandrie, vous l'avez rappelé dans les années 1789, avec tout son harnachement culturel, de bibliothèque, comment vous le savez aussi bien que d'autres, mieux que moi, je dirais, il n'est pas venu affronter une culture, il est entré dans un monde qui véritablement vivait à une autre époque. Alors, à quoi attribuez-vous cet endormissement, ce rétrécissement? Ma troisième et dernière question, c'est lorsque vous avez parlé de la fabrication de l'imaginaire pour l'imaginaire. Je vous serais très obligé de prendre un peu plus explicite. Qui sont les fabricants et qui sont, je dirais...
Les fabriqués.
Non, pas fabriqués, parce que ce sont les consommateurs du produit fabriqué.
Oui, nous tous. Oui. Alors, oui, les cultures disparues, il y en a beaucoup déjà, malheureusement, parce que c'est un processus très ancien. Les religions, par exemple, sont aussi responsables de la disparition de cultures. Par exemple, la définition du polythéisme par les religions monothéistes ont entraîné ce souci de convertir des polythéistes au monothéisme et par conséquent d'éliminer les cultures qualifiées de polythéistes. Donc ça n'est pas seulement un phénomène moderne. Le phénomène de la centralisation politique, le phénomène des empires, regardez par exemple l'histoire de France après la Révolution. La société française avant la Révolution comprenait plusieurs langues, plusieurs cultures, plusieurs identités provinciales, très fortes. Eh bien, après la Révolution, ces identités ont progressivement disparu et aujourd'hui, nous voyons les résultats Il y a les Bretons qui essayent de se rattraper, les Provençaux qui essayent de se rattraper, les Corses qui essayent de se rattraper. Mais, comme vous l'avez dit, c'est trop tard pour beaucoup de cultures. C'est vrai. Et personnellement, je n'aime pas beaucoup ça parce que j'appartiens personnellement à une culture en voie de disparition, la culture berbère, sur laquelle se sont exercées des pressions depuis les Romains. Et des pressions successives de cultures plus prestigieuses parce qu'elles s'écrivaient, alors que la culture berbère est une culture orale. Vous voyez, les oppositions et les différences, ça c'est l'histoire des sociétés. Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes plus conscients de la valeur des cultures et de la valeur des langues parlées par les hommes. Chaque langue est un témoignage irremplaçable sur justement l'inventivité des hommes au contact de leur terroir, au contact de la nature où ils ont développé une expérience non seulement historique, mais écologique. Pas dans le sens où il est employé maintenant. Donc là, c'est quelque chose dont il faudrait prendre conscience aujourd'hui et il faudrait agir vite, car effectivement, ça, c'est en train de disparaître et de disparaître très rapidement. Alors, la question du rétrécissement et de l'endormissement, les historiens ont parlé longtemps de la décadence. Comme on parle de la décadence de l'Empire romain, on parle de la décadence de l'Empire musulman et de la culture musulmane. C'est très difficile à analyser et les historiens n'ont pas encore suffisamment travaillé ce point parce que ça demande une analyse des facteurs internes aux sociétés. Par exemple, il y a un phénomène qui a été remarqué par un grand historien maghrébin, Ibn Khaldoun, qui a remarqué une tension permanente entre ce qu'il appelle la civilisation du désert, le nomadisme, la civilisation pastorale et la civilisation sédentaire paysanne. Ça, c'est un thème qui demeure extrêmement important pour la recherche des conditions d'évolution de la culture musulmane, parce que la culture musulmane que nous présentons, celle que je vous ai présentée rapidement, vous avez noté que j'ai mentionné surtout des centres urbains. C'est une culture urbaine qui n'a pas entraîné, justement, le monde paysan et le monde pastoral, le monde du désert, qui occupe une large place dans les sociétés où l'islam s'est répandu. Et jusqu'aux années récentes, avec l'État-nation parti, pratiquement les nomades et les paysans ont continué de vivre selon leur code culturel traditionnel. On n'est pas venu les inquiéter outre mesure. Mais l'État-nation parti avec son volontarisme pour construire l'unité nationale est venu sédentariser les nomades avec des méthodes extrêmement brutales, niant pratiquement ce qui fait l'originalité, la spécificité des cultures nomades et pastorales. Voilà des exemples que nous vivons maintenant ou que nous avons vécu récemment. Autrement dit, vous voyez, l'injustice et aussi l'arrogance de l'État national, c'est comparable à ce que j'ai décrit pour la France. Et c'est ce modèle-là qui continue de fonctionner au nom de l'unité nationale. C'est pour cela, personnellement, je suis très admiratif, je le dis toujours, chaque fois que je viens en Suisse, du système suisse. Vous avez construit en Suisse un système respectueux, même du canton ou du village. Je trouve cela formidable. En tant que solution politique, évidemment, ça demande toujours à être affiné. Je sais que vous critiquez, mais c'est normal. Nous sommes humains et nous ne pouvons pas posséder la perfection. Mais ce respect du canton et en même temps le respect de la fédération me semble être une solution que beaucoup d'autres pays devraient adopter. Je le dis avec conviction. Je ne fais pas un éloge comme ça gratuit. Je l'ai dit souvent et je le redis. Je m'excuse, la troisième... L'imaginaire. Ah voilà, l'imaginaire est un gros morceau. C'est un gros morceau. D'ailleurs, il faudrait réclamer aux organisateurs ici de ces conférences que l'on vous fasse une conférence ou plusieurs conférences sur l'imaginaire. C'est extrêmement intéressant. Et c'est nouveau. C'est nouveau. C'est ce que je vous ai dit au début. Je vous ai dit, il y a eu
des événements scientifiques nouveaux. C'est l'anthropologie qui a introduit la dimension de l'imaginaire comme dimension à la fois psychologique et sociologique dans le fonctionnement à la fois de nos psychologies individuelles et du fonctionnement des sociétés. Et l'imaginaire est inséparable de ce qu'on appelle le rationnel. Jusqu'à présent, on nous a présenté les cultures comme étant essentiellement une construction de la raison qui contrôle tout et qui filtre tout et qui nous assure que nous possédons bien une interprétation scientifique des choses. C'est une erreur fondamentale. Une erreur psychologique, puisque nous ne considérons pas la part affective de nous-mêmes, ce que les anciens pères de l'Église, comme le Coran et toute la culture religieuse, a appelé le cœur. Le cœur, symboliquement bien sûr, est le siège du fonctionnement concomitant, inséparable de ce que nous nommons la raison d'un côté et l'imagination de l'autre. Et aujourd'hui, on restitue cette dimension et on essaye d'étudier les interactions entre le rationnel et l'imaginaire.
Mais qui fabrique quoi, pour qui?
Mais tous les agents sociaux produisent de l'imaginaire et tous les agents sociaux en consomment. Il n'y a pas de société qui échappe à l'imaginaire. Et le discours politique ne peut fonctionner, ne peut se répandre et produire des effets que grâce à l'existence de l'imaginaire. Enfin, vous avez beaucoup d'exemples, même en Suisse, bien que vous ayez une démocratie très démultipliée, vous n'avez pas des discours, évidemment, et des programmes comme on en a en France, mais pensez au programme de Mitterrand en 81, ça s'adressait à l'imaginaire français. Et tellement à l'imaginaire qu'ensuite, le programme, il y a des choses qui ont été réalisées, d'autres dont on attend toujours la réalisation, parce qu'il s'agissait de mobiliser l'imaginaire collectif en vue d'obtenir un résultat politique. Et ça, vous pouvez le trouver dans tous les pays. Étudiez les discours politiques de Bush pendant la guerre du Golfe. C'est purement de l'imaginaire. Ça n'a rien à voir avec le rationnel. Vous voyez, c'est une dimension omniprésente dans les sociétés. Et ce sont les sociologues, et aussi les psychologues, et aussi les psychanalystes qui introduisent ce concept. Alors, par exemple, Lacan a beaucoup fait pour introduire ce concept dans l'analyse psychanalytique. Et bien entendu, les historiens, Georges Duby, je ne sais pas si vous l'avez entendu, l'œuvre historique de Georges Duby sur le Moyen-Âge, a montré la dimension considérable de l'imaginaire dans les sociétés médiévales. Mais aussi, encore une fois, dans les sociétés contemporaines. Ne croyez pas que c'est pour les demeurer, là aussi. Hein? Parce que c'est ça qui est nouveau dans la lecture des sociétés et la lecture des cultures. C'est ça qui est nouveau. Oui
Je termine. Vous les avez tout à l'heure reproché de mal déchiffrer, comprendre l'islam. Vous avez, je crois, insisté en disant que c'est les médias, que c'est l'Occident qui présente une image erronée du Saint-Esprit courant. Est-ce que des mouvements comme le Fils, est-ce que ce qui s'est passé en Iran, ce qui s'est passé ailleurs, ne nous donne pas eux-mêmes
l'image? Oui, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je l'ai dit. Ça, je l'ai dit. Je l'ai dit. Il fallait l'entendre. Je peux le redire si vous voulez, mais je l'ai dit, oui, monsieur.
Permis à un peuple qui n'était pas aussi ignorant, ce n'était pas allait dire les premiers que j'ai fait, c'était tout simplement un ensemble de frustrations. On essaie de jour en jour cultiver, et demain on viendra dire, voilà, les femmes, oui, ma soeur est obligée de se voiler, mais elle n'aurait pas fait si elle n'était pas obligée de le faire. Alors vous restez derrière, et vous applaudissant, les hommes, voilà, regardez, effectivement, les douleurs. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ou bien notre humanité, comme toutes les autres, là, ça serait une humanité pour tout le monde, ou bien ici, demain, après demain, vous aurez des patrons albanais, iraniens, turcs, de partout. Et il faut assumer. On ne peut pas tout le temps dire, voilà, nous sommes le plus fort, mais il y a des limites à tout.
Oui, et bon. Pouvoir. Vous avez une question ?
Voilà, ça, je voulais dire tout simplement, je ne sais pas comment la prendre.
Une question pour enrichir le débat. Une question. Non ?
Ma question, quelle est la part de responsabilité de cette hégémonie des Occidentaux dans ce qui se passe en Algérie aujourd'hui, en Iran, en guerre, etc. Ça, c'est une part. C'est tout le monde qui peut être.
Oui, bon. La question ainsi posée, comme je vous l'ai montré, je pense, dans tout ce que j'ai dit, n'est pas complète. Il faut en effet poser cette question de la responsabilité, mais il faut aussi la poser pour les États-nations-parties et analyser l'histoire de l'État-nation-partie dans les 30 dernières années. Ça, il faut toujours l'ajouter, parce que sinon, les Occidentaux ne prendraient pas au sérieux la demande qui leur est adressée. Et cela, malheureusement, manque jusqu'à présent. Je le dis, il faut le dire. Et pour changer, il faut changer des deux côtés. N'est-ce pas ? Et donc, il ne faut pas uniquement maintenir un discours d'accusation, surtout s'il est tenu seulement sur le registre idéologique. Parce que là, ça ne marchera pas. Il faut le tenir, comme j'ai essayé de le faire devant vous, j'espère, sur le registre de l'analyse culturelle et de la communication entre les cultures. Parce que ça peut intéresser tout le monde. Et tout le monde est intéressé à ce que la culture devienne notre trait d'union et notre lieu de communication. Il faut absolument essayer maintenant de s'émanciper du discours idéologique. Il nous a suffisamment fait dériver, surtout lorsque le monde soviétique jouait un rôle très très important dans l'excitation des idéologies, avec les jeux de bascule que nous avons connus, justement de la part des pays du tiers-monde, qui s'appuyaient tantôt sur l'un, tantôt sur l'autre, pour maintenir, hélas, des politiques tout à fait catastrophiques. Alors maintenant que cette situation a profondément changé, je crois que nous devons saisir la chance historique que nous avons devant nous d'instituer la communication entre les peuples et pas entre les États seulement, comme cela a été aussi le cas jusqu'à présent, et une communication mobilisant les instruments de la culture et non pas les slogans idéologiques. Ça, il faut que ce soit très très clair dans notre esprit. D'autres questions ? Bien. Alors, si vous semblez apaisé.